Bonjour.
Ça va bien? OK. C'est vraiment un privilège pour moi d'apporter la parole ce matin. C'est la première fois que je fais ça ici, au Carrefour. Et pour de vrai, j'ai hâte, mais je suis un peu nerveux. Mais je pense que ça va bien aller. En fait, la plupart d'entre vous, vous le savez, j'ai grandi dans cette assemblée. J'ai été à la garderie, au préscolaire, à l'école du dimanche, dans les camps d'enfants. Il y en a qui pourraient raconter toutes sortes de choses. J'ai été à la jeunesse. Je suis encore à la jeunesse. Ça fait 24 ans que je suis à la jeunesse. Non, je chiale pas. Pour de vrai, j'aime beaucoup les jeunes et Camille aussi aime beaucoup les jeunes. On est choyés, on est bénis. J'ai été consacré dans l'assemblée. J'ai été baptisé. Je me suis marié ici. J'ai fait consacrer mes deux garçons. Je suis donc un peu le fruit des efforts de tant d'hommes et de femmes qui se sont investis semaine après semaine et ont décidé de servir fidèlement l'Éternel. Merci à tous ceux qui, chaque semaine, accueillent les gens, changent les couches à la garderie. C'est pas un job glamour, mais ils sont là. Et je pense que lorsqu'on s'investit dans les plus jeunes, on finit par récolter le fruit de nos efforts. Alors, merci à tous ceux qui se sont investis pour qu'on puisse enfin entendre le message de l'Évangile et qu'on puisse grandir dans la foi et grandir dans l'amour de Dieu. Amen. J'ai commencé à m'impliquer dans le ministère de louange et adoration à la batterie. J'avais l'âge de 16 ans. Et pour moi, à cette époque-là, le mot adoration voulait dire un culte chanté, un temps de louange. Et je pense que la plupart d'entre nous, on associe le mot adoration à un culte chanté. Et même le théologien Wayne Grudem, dans sa théologie systématique, il va faire le rapport avec l'Occident. Il va dire, dans notre conception occidentale, l'adoration est une activité qui consiste à glorifier Dieu en élevant nos voix devant lui de tout notre cœur. Plusieurs groupes de musique de worship vont utiliser le mot worship qui veut dire adoration. Mais l'adoration, c'est tellement plus que des chants, tellement plus qu'un temps de louange un dimanche matin, une heure et demie par semaine. L'adoration est une dévotion complète envers celui qui nous a créés, qui nous a aimés en premier, qui nous a rachetés et qui reviendra nous chercher. Jésus est le roi des rois. Êtes-vous d'accord avec ça? J'espère. Et je veux qu'on se rappelle un peu la réflexion de pasteur Jean-Frédéric il y a environ deux semaines, qui disait, si la musique était absente, ou encore si la musique était vraiment déconcentrante, est-ce qu'on serait capable d'adorer Dieu pareil? Moi, je poursuis son idée en disant qu'on n'a pas besoin de musique pour adorer Dieu. En fait, on a juste besoin d'un cœur soumis à Dieu, un cœur qui recherche à lui obéir, un cœur qui est mort à lui-même, mais qui est vivant pour l'amour de son prochain et de son Dieu. L'adoration sans le cœur, c'est impossible. Et dans les livres de Ésaïe et dans le livre de Matthieu, on voit comment Dieu perçoit l'adoration qui n'a pas de cœur. Dans Matthieu 15, versets 8 à 9, ça dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur, car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par les hommes. » Est-ce que parfois on est un peu ce peuple qui vient chaque dimanche matin d'une manière religieuse, systématique? Le dimanche matin, on vient à l'église. Mais est-ce qu'on est un peu ce peuple qui vient le dimanche matin, qui chante des chansons comme un karaoké, puis qui repart après, rien qu'à changer? Je pense que chacun d'entre nous, à certains moments de nos vies, on est un peu ce peuple où notre cœur n'est pas 100% dévoué à Dieu. Et on ne peut pas faire semblant devant Dieu, on ne peut pas se cacher devant Dieu, on ne peut pas tromper Dieu. Dieu connaît la profondeur de notre cœur. Et on a vu aussi dans les dernières semaines que vivre notre foi une heure et demie par semaine, c'est clairement pas assez. Ce n'est pas une vie, c'est une survie. Ce n'est pas une croissance, mais une absence de nutriments spirituels vitaux et essentiels. L'adoration, aujourd'hui, c'est ce qu'on va parler, c'est un mode de vie. De la même manière que je respire, je dois servir l'Éternel dans mon quotidien. Mais comment est-ce que je fais ça? Comment faisons-nous pour devenir des adorateurs en esprit et en vérité? Donc, ce matin, je vais vouloir proposer trois pistes de solutions, trois pistes qui peuvent nous guider comment adorer Dieu. D'abord, il faut reconnaître qui Jésus est et s'en rappeler à chaque instant. Puis, il faut reconnaître qui nous sommes. On fait partie de la création de Dieu. Nous sommes ses serviteurs. On a été créés pour le louer et l'adorer. Finalement, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour vivre au quotidien une vie d'intimité avec Jésus? Donc, avant de commencer, on va fermer la tête et baisser les yeux pour ceux qui sont habitués d'entendre cet adage de moi, mais on va baisser la tête, on va fermer les yeux, on va prier ensemble. Seigneur Jésus, je te prie que ce matin, tu puisses agir. Seigneur, que tu puisses parler à nos cœurs, que tu puisses convaincre nos cœurs, nos esprits de te louer, de t'adorer en esprit et en vérité à chaque moment. Seigneur, que ton œuvre soit faite ce matin dans notre Église, dans notre Assemblée. Amen. D'abord, reconnaître qui Jésus est. Alors, vous savez, Jésus est beaucoup de choses. La plupart d'entre vous, vous le savez. Jésus est le Messie, le Christ, le Sauveur, le Fils de Dieu, notre frère, Emmanuel, Dieu avec nous, etc., etc., etc. Mais ce matin, je veux parler d'un aspect, d'un titre que Jésus a, qui est quand même loin de notre conception contemporaine, le roi des rois. Jésus apparaît dans l'Antiquité. Hein, on associe la naissance de Jésus à l'an zéro. Bon, il y a une erreur de datation, ce n'est pas important, mais Jésus est dans l'Antiquité. Et le mode, ou du moins le régime politique dominant durant l'Antiquité, c'est la royauté. Oui, il y a eu des épisodes de démocratie limitée à Athènes, ou encore Rome avait une république avant l'Empire, mais de manière générale, dans tous les royaumes, dans l'Antiquité en général, c'était des rois. Ce n'est pas un système qui fonctionnait tout le temps bien. Surtout quand le roi donnait son pouvoir, remettait son pouvoir à son fils, à son descendant, et que ces rois-là, héréditaires, dominaient sur une population qui n'avait pas toujours beaucoup de recours contre les abus possibles de la classe dirigeante, surtout si celle-ci était corrompue. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël veut avoir un roi. Il veut être comme les autres. On voit ça dans 1 Samuel. Il réclame un roi. Alors Samuel va voir Dieu et Dieu dit, « OK, ils n'ont pas voulu moi, mais voici ce qui va arriver. » Et dans 1 Samuel 8, versets 11 à 17, on voit quels sont les droits du roi. Il leur dit, « Voilà quels seront les droits du roi qui règnera sur vous. Il prendra vos fils pour en faire ses soldats et les affectera au service de ses chars de guerre et de ses chevaux. Et ils auront à courir devant son char personnel. Il choisira parmi eux pour en faire des officiers commandants de milliers et de cinquantaines. Il en prendra d'autres pour labourer ses champs et récolter ses moissons ou pour fabriquer ses armes et l'équipement de ses chars. Il prendra vos filles comme parfumeuses, cuisinières et boulangères. Il prendra vos champs, vos vignes et vos meilleurs oliviers pour les donner à ses hauts fonctionnaires. Il prélèvera une redevance de 10% sur les produits de vos champs et de vos vignes. Il la distribuera à ses courtisans et à ses hauts fonctionnaires. Il prendra vos serviteurs, vos servantes et vos jeunes gens vigoureux, et même vos ânes. Il s'en servira pour ses propres travaux. Il prélèvera une bête sur 10 dans vos troupeaux et vous deviendrez ses serviteurs. Le droit des rois terrestres est lourd en conséquence. Les rois terrestres ont tout pouvoir sur leurs sujets, sur leur peuple. Et la plupart des rois, l'histoire nous l'a démontré, s'en soucient guère de leurs sujets et s'en soucient guère de leur peuple. Les premiers, les rois, eux autres, ils désirent être servis. Ils veulent que leurs besoins, tous leurs besoins soient comblés. Et ce, au détriment des besoins ou encore de la dignité de leurs sujets. Jésus est complètement différent. Complètement différent. Il est venu humblement pour servir et pour mourir. Et lors d'une discussion entre disciples, pour savoir c'est qui est le plus haut, c'est qui est le plus grand des disciples? Jésus, il dit, oh, 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 la gang, on se calme. Il va leur dire dans Matthieu 20, versets 25 à 28, « Vous savez ce qui se passe dans les nations. Les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser sur eux leur autorité. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Car de même, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Jésus annonçait déjà son sacrifice. Sa mission était de nous racheter au plus grand prix, sa propre vie. Un roi, généralement, ne fait pas ça. Ça pourrait être illogique. Même ça pourrait être considéré comme scandaleux. Mais ce genre d'histoire-là a été repris et repris et repris dans maintes autres histoires. Une des histoires qui me vient à l'esprit, c'est Avengers. Peut-être certains d'entre vous, vous connaissez l'histoire des Avengers. Là, je cache un punch peut-être, là. Ça fait quasiment 10 ans que le film est sorti. Bon. À la toute fin, Iron Man. Ouais. N'a qu'une seule option devant lui. Se sacrifier. Quel sacrifice! Pour de vrai, Camille et moi, on aime beaucoup les films de science-fiction, fantastique, etc. Et dans... quand cette scène-là est arrivée, oh, j'ai eu une émotion. Wow! Mais ça, c'est juste un homme, un personnage de bande dessinée qui sacrifie. Jésus, c'est tellement plus que ça! Jésus, c'est plus que Iron Man. C'est plus que Bruce Willis dans Armageddon, là. C'est tellement plus! Parce que non seulement ça, oui, il est mort, mais il est... Yeah, il est ressuscité. Wow! Alors, pour nous qui connaissons la fin de l'histoire, on n'est pas scandalisé par le message de la croix. On est heureux. On trouve ça magnifique. Par le sacrifice de Jésus à la croix, le croyant devrait être rempli d'admiration, de dévotion. Il devrait avoir le désir d'être transformé, d'être sanctifié. Il voudrait ressembler de plus en plus à Jésus. Il voudrait l'imiter en toutes choses. Comme je vous ai dit, moi, je suis un grand fan de films. Et une de mes histoires préférées, c'est toute une histoire épique. Il se passe toutes sortes de choses dans cette histoire-là. Mais il y a un personnage qui s'appelle Boromir. Boromir est le fils de l'intendant d'un royaume qui s'appelle le Gondor. Le Gondor n'a pas de roi depuis plusieurs années parce que les rois sont en exil. Et lors d'une quête, Boromir rencontre l'héritier du trône qui s'appelle Aragorn. Et Boromir, c'est un grand capitaine, un grand soldat, il est très orgueilleux. Et il va regarder Aragorn, mais il va dire, « Le Gondor n'a pas de roi, il n'en a pas besoin. » Il va regarder Aragorn avec mépris. Et après une bataille très, très lourde où Boromir va être gravement blessé, il va recevoir quelques flèches dans le corps, il est à son dernier souffle, Aragorn se penche vers lui pour le réconforter. Boromir, lors de son dernier souffle, il va dire une phrase de rédemption. « Je vous aurai suivi, mon frère, mon capitaine, mon roi. » Comme je vous l'ai dit, je suis un émotif. Je pleure. Et cette histoire-là, je l'ai écoutée et réécoutée maladivement. Mais plus j'écoute cette histoire-là, plus j'en fais un parallèle avec ma vie, avec ma foi. Moi, je ne veux pas être comme Boromir, qui va attendre la fin de sa vie pour dire, « Ah, Seigneur Jésus, je t'aurai suivi, mon frère, mon capitaine, mon roi. » Oh non, 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 non. Moi, je veux dès aujourd'hui dire, « Je te suivrai, mon frère, mon capitaine, mon roi des rois. » Lorsqu'on reconnaît qui Jésus est, On est en voie de mieux comprendre notre propre identité. Par son sacrifice à la croix, nous sommes de nouvelles créatures. Une nouvelle créature qui est créée pour adorer en toutes circonstances, dans la santé comme dans la maladie, dans la richesse comme dans la pauvreté. Certains d'entre vous, vous rappelez de ces vœux-là? On fait ça quand on se marie. Mais moi, je veux suivre Jésus dans toutes les circonstances. On devient le temple du Saint-Esprit, mais ça passe d'abord par reconnaître en toute honnêteté et humilité qui nous sommes réellement. Et mon deuxième point, c'est que nous sommes, entre autres, de nouvelles créatures. La semaine dernière, pasteur Simon Ntamack a pris un verset que j'étais comme, « Ah oui, moi aussi je veux dire ça. » Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. Dans Galates 2:20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. My oh my, c'est facile à dire. Est-ce que c'est facile à faire? À chaque jour, il faut se rappeler ces versets-là. Il y a quelques années, j'ai travaillé dans un magasin de plein air. Et j'ai vraiment eu la bénédiction d'avoir un patron qui était chrétien. Un gars qui loue le Seigneur, qui sert dans son église locale à chaque semaine. Une personne que j'admire énormément. Allez le voir chez ses sœurs, son nom c'est Philippe. Mais on a eu une discussion à un moment donné sur le travail bien fait. Je ne me rappelle pas des circonstances, si c'était parce que je ne faisais pas ma job comme il faut ou whatever. Peut-être, sûrement. Mais il y a un verset qui m'est remonté à l'esprit, qui est revenu dans mon cœur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur. Dans Colossiens 3:23. J'ai appris ce verset-là par cœur lorsque j'étais à l'école du dimanche. À une certaine époque, en tout cas, quand j'étais à l'école du dimanche, on apprenait les versets par cœur, souvent dans un contexte de concours. Tu apprenais le verset, la semaine suivante, tu le récitais, puis tu avais un bonbon. Bon. Pensez-vous qu'un petit gars de 8-9 ans, comme moi, avait bien compris toutes les modalités d'application de ce passage-là? Demandez à mes parents. Ils vont dire « Oh non! » Beaucoup de choses que je faisais, c'était en fonction de mon propre cœur et non en fonction du cœur de Dieu. Je ne servais pas l'Éternel. J'avais 8-9 ans. Oh, je ne suis pas en train de dire qu'à 8-9 ans, tu ne peux pas servir l'Éternel, bien au contraire. Mais moi, à 8-9 ans, j'avais encore besoin de beaucoup de sanctification. D'ailleurs, encore aujourd'hui. Mais je fais une parenthèse ici. Croyez-vous qu'il est important qu'on apprenne à nos enfants des passages bibliques par cœur? Parce qu'un jour, là, quand ils vont grandir, quand il y a des circonstances dans leur vie qui vont devenir de plus en plus difficiles, leur mémoire va faire remonter le verset qu'ils ont appris et le Saint-Esprit va travailler à l'intérieur de ça. Alors, pour de vrai, il faut prendre soin de nos enfants. Il faut leur apprendre les vérités bibliques. Pour moi, c'est super important. Pour notre assemblée, c'est super important. On a un deuxième étage qui est consacré à apprendre des vérités bibliques à des enfants. La discussion avec mon patron, avec Philippe, a été un point tournant dans ma vie. Pour de vrai, ça a changé ma perception des choses, comment j'allais entreprendre le travail. Et je l'ai répété, je ne sais pas combien de fois, à mes élèves aussi. Dans les temps de partage à l'école du dimanche, je l'ai répété, répété, répété. Pour moi, c'était super important. Un adorateur désire plaire à Dieu dans toutes les choses qu'il fait. Au travail, dans les moments de famille, dans les activités sportives et artistiques. Moi, je fais du sport. Je joue au baseball avec pasteur Jean-Frédéric, entre autres. Et d'autres personnes qui sont dans l'assemblée aussi. On est une équipe de l'Église. C'est une occasion de rayonner. C'est une occasion de rayonner parce que les trois autres équipes contre qui on joue, crée-moi, ils ne rayonnent pas. Vendredi soir, on entendait des affaires, puis ouf, ça ne volait pas haut. Un adorateur veut servir Dieu, même sur le terrain de baseball, même quand il joue au hockey puis qu'il se fait slasher la jambe. Amen. Un adorateur veut servir Dieu, même dans son intimité. L'adorateur s'efforce à adorer en esprit et en vérité. Dans Jean 4, Jésus est en discussion avec une femme qui, elle, veut vraiment passer inaperçue. À midi, elle se rend au puits pour puiser de l'eau. La plupart d'entre vous, vous connaissez cette histoire-là. C'est pas commun pour une personne d'aller puiser de l'eau dans un puits à midi. Vraiment pas. Mais Jésus est là et il la voit. Et avec la femme samaritaine, ils vont avoir une discussion. Et je veux prendre un petit passage où dans lequel la femme samaritaine demande à Jésus qui a raison entre les Samaritains qui vont adorer sur le mont Garizim ou les Juifs qui adorent à Jérusalem. Elle veut savoir, elle veut avoir une réponse. Et Jésus va lui dire, dans Jean 4, 21 à 24, « Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. » Et c'est là que ça devient important. « Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent par l'Esprit et en vérité. » Jésus est en train de dire que les lieux physiques n'auront plus d'importance. Jésus nous appelle chacun d'entre nous à être des temples spirituels. Des temples, même être des pierres spirituelles qui vont construire un temple dans lequel le Saint-Esprit demeure. Le temple de Jérusalem a été détruit. Jésus l'avait annoncé. Le mont Garizim où les Samaritains allaient adorer, ça a été détruit. Le carrefour chrétien de la capitale, 900 boulevard Le Bourgneuf, en bas de la côte, a été détruit. Les bâtiments s'envolent. Tombe, se détériore, mais l'Église de Jésus-Christ, elle, demeure et perdure. Adorer Dieu en esprit et en vérité demande aux croyants de saisir l'importance de vivre au quotidien une vie conforme au désir de Dieu et de se laisser transformer par lui. En laissant Dieu nous sanctifier, car ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi, comme je l'ai dit précédemment, mon ancienne chair, celle qui me poussait à pécher, ne devrait plus avoir le dernier mot. J'étais pécheur, mais j'ai été racheté par le roi des rois et je veux vivre quotidiennement dans sa présence. Donc, comment ça se traduit au quotidien, ça? Est-ce qu'il faut faire plus de sacrifices? Plus de dons de soi? Est-ce qu'il faudrait que je donne plus d'argent à des œuvres de charité? Ou encore, est-ce qu'il faudrait que je chante plus fort le dimanche matin lors des cultes? Ah, je sais, je vais prendre un instrument de musique, je vais joindre le groupe de musique, puis là, je vais vraiment adorer. C'est toutes des bonnes choses. Mais si le cœur n'est pas là, ça ne sert à rien. Si nos cœurs ne sont pas alignés avec Dieu, ça ne sert à rien. La vie d'adoration requiert de pratiquer la justice, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec Dieu. Et dans Michée 6, versets 6 à 8, ça dit « Avec quoi donc pourrais-je me présenter à l'Éternel? Et avec quoi m'inclinerais-je devant le Dieu d'en haut? Irais-je devant lui avec des holocaustes, avec des veaux âgés d'un an? L'Éternel voudra-t-il des milliers de béliers, 10 000 torrents d'huile? » Je ne sais pas ce qu'on fait avec 10 000 torrents d'huile. Mais eux autres, ils le savent. Devrais-je sacrifier mon enfant premier-né pour payer ma transgression, l'enfant issu de moi pour expier ma faute? On te l'a enseigné aux hommes. Ce qui est bien et ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à la bonté et que tu vives dans l'humilité avec ton Dieu. Puisque Jésus, le roi des rois, on devrait rester humble devant lui. Vous savez, la posture d'un sujet devant un roi dans l'Antiquité était de se prosterner. Et il y a plusieurs niveaux de prosternation. Nous, dans notre culture occidentale, se prosterner, c'est bizarre. On ne le fait plus. C'est rare qu'on fait la révérence. Mais à l'époque de Jésus, on se prosternait à genoux devant le roi ou même à plat devant le roi. Restons humbles devant Dieu. Et une bonne manière de rester humble, c'est de se repentir à chaque jour. Et même plusieurs fois par jour. Inclinons-nous, inclinons nos cœurs devant ce frère, ce capitaine, ce roi des rois, qui lui a tout donné à la croix. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. On a besoin que le Saint-Esprit mette en lumière ce qui a besoin d'être transformé. On a besoin, pour avoir un cœur d'adorateur, de se repentir. Dieu est saint. Il est le saint des saints. On ne peut pas arriver devant Dieu souillé. Il va nous laver par le sang de Jésus. Mais il faut se repentir. Il faut mettre en pratique ensuite de ça la grâce qui nous a été témoignée. Aidons ceux qui ont besoin. Impliquons-nous à l'église, à l'accueil, au café, à l'éducation chrétienne, à l'école du dimanche. J'en ai parlé tantôt, comment c'est important. En contact, sûrement besoin de bénévoles. Oui. Dans les groupes de prière, il y a des hommes et des femmes qui prient à chaque dimanche matin pour le culte. Impliquons-nous. On peut aller servir à la soupe populaire du Café Rencontre. On peut aller cueillir des légumes à l'automne avec Moissonneurs solidaires. On peut aller aider pour les paniers, on peut aller aider au carrefour monoparental. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. Mettons en pratique la grâce qui nous a été témoignée. Et M. Lucier, le directeur de Défi Jeunesse, qui est aussi le directeur de Moissonneurs solidaires, quand tu vas cueillir des légumes, généralement, il fait comme un accueil et il va présenter un peu la mission de Moissonneurs solidaires. Et le verset qu'il utilise, puis c'est un verset que j'aime beaucoup, c'est dans Jacques 1, 27. Ça dit ceci, « La religion authentique et pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. » On se repent. On met en pratique la grâce qui nous a été témoignée. Il faut se nourrir aussi de contenu qui glorifie Dieu. Et là, je pense que je parle à chacun d'entre nous. On est dans un contexte où on est bombardé de contenu à chaque jour, que ce soit par les différents types de réseaux sociaux qui existent, Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, YouTube, etc., etc., etc. Que ce soit par les postes de télévision qu'on écoute, Radio-Canada, RDI, LCN, TVA, Canal Savoir, je ne sais pas. La radio communautaire. Oui. On ne veut pas mettre des obstacles à la sanctification de Dieu. On m'a souvent encouragé à faire attention à ce que je disais. Ma mère m'a souvent répété Philippiens 4:8. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, et de tout ce qui est vertueux et mérite louange. D'ailleurs, elle me l'a répété samedi dernier. C'est de l'abondance du cœur que de la bouche parle. Un autre verset que j'ai appris à l'école du dimanche en passant. Je vais demander à Francis et à son équipe de s'approcher, s'il vous plaît. Francis, t'es où? Ah, Francis. Qu'est-ce qu'on peut écouter d'abord? Écoutons des chants de louanges. Sur YouTube et Spotify, il y a de nombreux groupes de musique de louanges qui existent. Vous n'avez pas Spotify, vous n'utilisez pas YouTube, pas de problème. Je suis convaincu que vous avez encore des cassettes ou des CD-ROM que vous pouvez utiliser. Sûrement quelqu'un ici a encore une cassette de EXO chez eux. Ouais. Marianne a dit oui. Écoutons des balados, des podcasts qui sont édifiants. et qui écoutons des séries télévisées et des films clean. Là, je ne suis pas en train de dire d'écouter juste du contenu chrétien. Mais je nous encourage surtout à écouter l'Esprit de Dieu lorsqu'on ressent qu'il faut faire pause ou changer de poste. Parfois, on fait des compromis moraux dans notre intimité et ça finit peut-être par avoir des impacts publics. Que nos cœurs soient résolument tournés vers le cœur de Dieu. De tout mon cœur, de tout mon être, je veux le servir, je veux l'honorer et je veux me sacrifier pour lui. Je ne suis pas en train de donner des ordonnances ultra-religieuses ou que là, il faut qu'on ait une attitude religieuse à partir de maintenant. Je vais me sacrifier. Il faut que je fasse telle, telle affaire de telle heure à telle heure. Ce n'est pas ça que je dis. Parce qu'une religiosité qui est dépourvue de foi et de sincérité, ça ne marche pas. Moi, je désire que les cœurs, que nos cœurs ici, soient profondément orientés vers Jésus et que les fruits qui en sortent soient ceux comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau vive. Psaume 1, ça vous dit quelque chose? Heureux l'homme qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas et qui ne s'assied pas, mais qui trouve sa joie dans l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau vive. Moi, je veux être cet arbre-là qui marche main dans la main avec Jésus, qui va dire, « Je te suivrai, mon frère, mon capitaine, mon roi des rois, mon sauveur. » Laissons Dieu sonder nos cœurs afin que l'on puisse lui offrir un culte raisonnable en esprit et en vérité. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte raisonnable. Romains 12, 1. Le cœur d'adorateur reconnaît qui Jésus est. Le roi des rois, le sauveur, le Messie. Le cœur d'adorateur reconnaît son identité en Christ. Il désire se laisser transformer pour adorer Jésus en esprit et en vérité. Le cœur d'adorateur met en pratique la grâce de Dieu quotidiennement. Il se repent, il se nourrit des aliments spirituels essentiels. Il est finalement prêt à se sacrifier pour son prochain et pour son Dieu. Alors ce matin, alors que le groupe de louanges va chanter ce chant, qui était probablement le chant préféré de ma grand-mère, Dieu Tout-Puissant. De tout mon cœur, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Mettons en pratique ce matin, Carrefour, une dévotion complète dans l'adoration. Demandons à Dieu de mettre en lumière les choses qui doivent être laissées à la croix ce matin. Et qu'on ne parte pas pour l'après-midi, pour le reste de la semaine, de la même manière qu'on est rentré ce matin. Chacun d'entre nous, on a besoin de la grâce de Dieu. Que ça fait une semaine que tu connais Jésus, que ça fait 55 ans, 65 ans que tu connais Jésus, à chaque jour, on a besoin de la grâce de Dieu. À chaque jour, on a besoin de renouveler notre engagement envers Christ. Et mon désir, c'est que notre assemblée soit une église qui adore en esprit et en vérité. Pas juste du bout des lèvres, mais avec tout son cœur, pour que les fruits soient bons, juteux, agréables. Dans notre assemblée, dans nos familles et dans notre communauté. Alors, je vous invite à vous lever. On va chanter ce chant « Dieu Tout-Puissant ».